Isabelle Bresse.
Sud Radio.
C'est vous.
C'est vous.
Bonjour à tous et bienvenue sur Sud Radio. Nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, on parle de vos enfants dans cette deuxième heure. Un sujet passionnant également. Et oui, nous allons voir que nos blocages, nos phobies, nos troubles peuvent venir de notre naissance et plus loin même. Avec nous pour en parler, Sylvie Pragère Séchaud, auteure des Mémoires de naissance paru chez Dang. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour à tous.
Bienvenue sur Sud Radio. Nous sommes également avec Marie-Geneviève Thomas. Bonjour Marie-Geneviève. Geneviève.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes psychologue, psychothérapeute, animatrice d'ateliers de psychogénéalogie et bien sûr on va parler de psychogénéalogie, un thème passionnant et d'ailleurs c'est pas la première fois que vous venez dans l'émission pour en parler puisque on trouve que vraiment ce sujet nous apprend des tas de choses sur nous, sur notre famille, sur nos blocages également, enfin bref, on va apprendre tout plein de choses et puis avec nous Thierry Braillère, auteur
Bonjour,
du Rabot de Louis. Bonjour Thierry, qui est une saga familiale.
Tout à fait.
Et donc en rapport complet avec le thème de la psychogénéalogie. Et puis Pierre Papoz est avec nous également, fondateur de Filtre de Vie. Filtre de Vie, c'est une société qui vous permet de faire raconter, de raconter votre histoire, l'histoire de votre vie à une personne qui va ensuite la retranscrire à travers un livre. C'est une super idée, Pierre. Et on vous a déjà eu dans l'émission également, mais on trouve que c'est une tellement super idée qu'on avait envie de vous avoir à nouveau. Bonjour Pierre.
Bonjour à vous tous, merci.
Donc un sujet passionnant s'il en est, à tout de suite sur Sud Radio.
Isabelle Bresse.
Sud Radio, c'est vous.
Et nous sommes de retour, nous parlons de phobie, de blocage et on va essayer de voir d'où ça peut venir. Avec nous Sylvie Pragère Séchaud qui est l'auteur des Mémoires de naissance paru en novembre chez Dangle, qui nous explique dans ce livre que beaucoup de choses se jouent au moment de la naissance du point de vue du bébé et que cette naissance peut laisser une empreinte qui pourrait être à l'origine de nos blocages, de nos phobies, du sentiment de manque d'amour, de peur de la séparation tout ça est super bien expliqué. Sylvie, c'est vrai que ces blocages peuvent venir de la naissance ?
Oui, en tout cas c'est une hypothèse très forte que je constate quotidiennement dans mon cabinet.
C'est-à-dire, comment est-ce que vous pouvez constater ça? On garde une mémoire de notre naissance. Je sais que mon fils, jusqu'à l'âge de 3 ans, il s'est rappelé sa naissance. Mais vraiment, hein, c'était pas une lubie, parce qu'il était capable, à 2 ans, par exemple, de me dire qui y avait dans la salle d'accouchement et tout. Et puis alors, je lui faisais répéter toutes les semaines. Et puis un beau jour, je lui ai demandé de me raconter sa naissance, et puis il s'en rappelait plus.
Oui, bon.
Ça arrive, ça?
Oui. Oui, on constate de plus en plus que des enfants naissent avec de plus en plus de capacité de se souvenir. Peut-être parce que leur naissance n'a pas été trop traumatique et que du coup, ils ont pu l'archiver comme une mémoire normale, fonctionnelle. Alors que quand la naissance est traumatique, y compris quand on se rend même pas, on peut très bien ne pas se rendre compte que la naissance est traumatique, ça ne se voit pas puisque ce que vit l'enfant à l'intérieur du ventre de la mère, même si aujourd'hui on a des monitoring pour pouvoir dire oui, là il y a souffrance fœtale ou non, là ça va, tout va bien. Ce que vit l'enfant, on ne se rend pas compte du tout en fait.
Oui.
On s'en rend pas compte.
Alors mon fils était capable de se rappeler du sentiment. Il me dit qu'il a eu peur.
D'accord.
Il me dit qu'il avait peur des gens qui étaient autour de lui.
Oui.
Il a ce sentiment de peur qui revenait. Mmh. Et puis boum, du jour au lendemain, plus rien. Alors en quoi est-ce qu'on peut avoir ces sentiments, ces phobies, etc., qui se développent au moment de la naissance?
C'est vraiment
le moment de la naissance, c'est pas avant, c'est pas...
Si, c'est, en fait c'est tout au long, depuis la conception jusqu'à la naissance, on a une conscience qui est active et on ne sait pas où est-ce qu'elle se stocke parce qu'aujourd'hui la science ne sait pas expliquer alors qu'on n'a pas encore de cellules de cerveau, mais on a quand même toutes les cellules souches qui sont ensuite là et qui vont pouvoir prendre leur forme. Donc on ne sait pas encore vraiment expliquer pourquoi, mais en tout cas toute la théorie du trauma, ce qui fait l'objet de la première partie de mon livre, toute la théorie du trauma est complètement congruente avec ce qui se passe dans la naissance. En fait, on pourrait considérer que, le fœtus, au moment où il arrive au monde, c'est un Koh-Lanta, hein, c'est pire que Koh-Lanta. Hein, c'est vraiment...
Bah oui.
Premièrement, s'extraire d'une grotte qui est fermée, on ne voit pas la sortie.
Non, mais déjà au départ, c'était la baston, hein, ils étaient des millions quand même à vouloir arriver
c'est
à l'ovule.
C'est
donc
vrai.
Déjà au départ, c'est la guerre. Après, rester bien accroché pour pas partir,
exactement.
Là aussi c'est compliqué,
ouais.
On se rend pas compte, hein, du combat du fœtus jusqu'à du spermatozoïde, du fœtus, etc., jusqu'à la naissance, c'est
ouais.
dur.
Ouais. Et l'avantage, c'est qu'à la naissance, ben, nous, les humains qui sommes déjà de l'autre côté de l'au-delà, on va dire, de l'autre côté du ventre, on peut déjà intervenir. On peut déjà intervenir pendant toute la grossesse, évidemment, quand on est une maman, c'est-à-dire intervenir, rassurer son bébé quand on est une maman et un papa, parce qu'on dit toujours, oui, les mères sont responsables. Non, les mères sont co-responsables. Le papa aussi est responsable dans la mesure où il est responsable aussi du climat dans lequel vit la mère et donc l'enfant. Donc, en fait, voilà, nous sommes tous... responsable, et j'ai envie de dire responsable, mais pas coupable, parce qu'on fait le meilleur qu'on peut à chaque moment.
Enfin, les papas, il faut être gentil avec les mamans, en gros. C'est ce que t'as en train de dire, Sylvie, pour que la maman, elle soit tranquille et que du coup, le bébé soit tranquille aussi.
Voilà, exactement.
Et donc, quel genre de phobie, de peur est-ce qu'on peut développer et à cause de quoi?
Donc, comme je le disais, déjà, nous sommes dans une grotte qui a l'air fermée et nous sentons que la grotte est minuscule, 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 de plus en plus minuscule et qu'il va falloir partir parce que là, c'est pas possible, on est trop serré. Et donc, déjà à ce moment-là, on a la décision qui peut être impactée parce que si on ne nous laisse pas le temps de sentir que vraiment c'est trop serré ici, qu'on voudrait partir, et qu'on nous dit « Ah ben non, voilà, c'est maintenant qu'il faut que tu partes », et c'est le cas de plein d'accouchements qui sont programmés, alors le bébé n'a pas eu le temps de faire le deuil de la situation et donc il est expulsé alors qu'il n'est pas prêt. Et déjà, ça va impacter la décision. Ensuite, lorsque je suis dans cette...
Alors les césariennes, c'est pas forcément bon du coup?
Non.
Quand on prévoit...
J'aurais envie de dire, nous faisons à chaque moment le meilleur que nous pouvons.
Oui. Et, Il ne faut pas culpabiliser les parents,
exactement,
hein, bien sûr.
Exactement. Si on pense que la césarienne est indiquée à ce moment-là, parce qu'effectivement, il y a une urgence pédiatrique, une souffrance de la mère... un problème, quel qu'il soit au niveau de la mère, diabète gestationnel ou je ne sais pas quoi d'autre.
Ou une tête trop grosse, ou un bébé,
oui,
ou des risques.
Sur la tête trop grosse, il y a beaucoup à dire, mais enfin bon. En tout cas...
Moi, c'est ce qu'on m'a dit, mais ça m'arrangeait bien en même temps.
Voilà, bon. Mais en tout cas, bien sûr que chacun va prendre autour de soi la décision qu'on pense être la meilleure. Si nous pouvons le dire au bébé, lui dire « bon, bah, je sais que tu n'es pas prêt » ou peut-être que toi, tu n'étais pas encore prêt là, mais là, il y a une urgence, il va falloir qu'on y aille, prépare-toi. Car le bébé sent, le bébé entend, même si il ne sait pas parler français, ça passe au-delà des mots. Donc...
Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'instinctif chez le bébé. On parlait des odeurs dans la première heure, puis il y a quelques semaines, et c'est vrai que quand mon fils est né, il pleurait. On ne le mettait pas dans les bras. Il a fait le tour de la maternité. Je crois que les sages-femmes, les machins, le médecin, le gynéco, son père, ma mère, mon beau-père, enfin, tout le monde le prenait dans les bras. Et moi, j'ai attendu, mais très, très, très longtemps. Et il pleurait, et il pleurait, et il pleurait, et il pleurait. Et puis, à un moment donné, il y en a un qui s'est dit, tiens, peut-être qu'on pourrait mettre cet enfant qui vient de naître dans les bras de sa mère.
Et à partir
Bonne idée. Et à partir du moment où il a été sur moi, il a arrêté de pleurer, mais immédiatement. Donc il y a quelque chose qui se joue entre la mère et l'enfant qui est impalpable, qu'on n'arrive pas à définir, qui vient sans doute d'ailleurs. De toute façon, c'est la première question qu'on se pose quand un enfant naît, hein. D'où tu viens? Enfin, moi, je sais que quand mes deux enfants sont nés, la première question que je me posais, mais d'où tu viens, toi? C'est ça, hein?
On vient d'une autre planète, hein. L'utérus est une autre planète. Pour l'enfant, c'est une autre planète. C'est pas le même système de respiration, c'est pas le même système d'alimentation, c'est pas le même système de chauffage.
Même avant ça, d'où tu viens?
Ah oui, alors ça, avant ça, oui.
Moi, je trouve que c'est quelque chose de magique et qu'on peut pas ignorer ce truc impalpable qui existe chez les bébés.
Les études montrent que... les enfants qui ont pu rester directement à la naissance une heure sur le ventre de leur mère ont bâti une estime de soi, une confiance en soi qui perdure toute la vie.
Ah oui, alors à ce point-là?
Oui, oui. Alors qu'il n'y a que 23 maternités, je crois, qui sont hôpital amis des bébés en France aujourd'hui sur les 450 qui existent.
À moi, mes deux enfants. Alors, le deuxième, j'ai eu un peu plus de chance. Ils me l'ont mis 5 minutes après qu'ils soient nés. Ils me l'ont mis 5 minutes sur moi. Puis après, poum, couveuse, etc. Je trouve ça très cruel.
C'est cruel. C'est vrai pour les deux.
C'est cruel, oui. Moi, je pleurais à chaque fois. J'étais à côté du bébé, la couveuse à côté. Je pleurais. Oh, mon fils. Mais c'est vrai que c'est cruel et qu'instinctivement, il faut suivre l'instinct des mamans qui instinctivement ont envie d'avoir ce bébé sur elles.
Sauf quand elles sont trop stressées, parce qu'il ne faut pas non plus culpabiliser dans l'autre sens. C'est-à-dire que certaines mamans n'ont pas cet instinct parce qu'elles ont déjà vécu un tel risque, une telle coupure, parce que la grossesse s'est mal passée, parce que ceci, parce que cela, que du coup, elles ont déjà été, elles sont déjà ce qu'on pourrait appeler figées, sidérées, et donc elles ont déjà opéré une opération de détachement, tellement elles sont convaincues que cet enfant va mourir.
Ah bon ?
Oui.
C'est fou ça.
Oui.
Alors Sylvie, j'imagine, comme vous intéressez à la psychologie, à tout ce qui
Bien
fait...
Bien sûr, je suis psychopraticienne, vous êtes
psychopraticienne, etc. Oui. J'imagine que la psychogénéalogie, c'est aussi quelque chose qui vous parle.
Complètement.
Oui.
Complètement.
Alors on est justement avec Marie-Geneviève Thomas. Bonjour, rebonjour Marie-Geneviève.
Oui, bonjour.
Vous êtes psychologue, vous êtes psychothérapeute et animatrice d'ateliers de psychogénéalogie. Et on peut remonter encore plus loin que la naissance pour voir d'où viennent des troubles, des problèmes, etc. Il y a des histoires incroyables parce que c'est vrai que parfois, certaines choses qui nous arrivent, quand on creuse un peu, en tout cas c'est ce que dit la psychogénéalogie, eh ben, ça peut venir de notre histoire familiale.
Tout à fait. Et je l'ai écrit dans mon petit livre sur qui est intitulé en sous-titre L'héritage invisible chez Jouvence. Il est vraiment intéressant d'observer ce que l'on peut appeler les loyautés invisibles qui nous conduisent à des répétitions. Et donc l'enfant qui naît, l'enfant qui arrive, l'enfant qui vient dans la famille est le centre d'attentes et de projections familiales qui vont bien au-delà de l'histoire du couple parental qui se forme et qui reprennent en compte tout ce qui s'est déjà joué dans l'histoire familiale ou qui s'est mal terminé ou qui reste en attente et en suspens. D'ailleurs, on peut constater qu'une naissance arrive parfois dans la suite d'un décès de grands-parents, d'arrière-grands-parents. Et du coup, les émotions de l'enfant sont aussi celles, et Françoise Dolto l'a très bien décrit, celles du parent qui l'attend, des parents qui l'attendent. Et le climat donc, que vous évoquiez dans lequel arrive l'enfant est également... non seulement celui de la conception, et j'aime beaucoup le terme de Sylvie de conscience active, oui. mais cette théorie du traumatisme, ben oui, va reprendre tout ce qui a pu se vivre de difficile ou de délicat dans les naissances précédentes, que ce soit dans la fratrie elle-même ou que ce soit dans les générations précédentes. Et parfois, on est surpris dans le travail de psychogénéalogie de pouvoir faire des liens entre un enfant et un arrière-grand-parent. Ça, nous le voyons dans les ateliers, donc thème par thème, et le premier thème, c'est toujours la naissance, c'est le plus important, c'est celui qui nous mène sur notre propre chemin. Donc oui, il y a des choses qui se rejouent et qui viennent signifier quelque part notre appartenance à cette famille.
Donc, la dernière fois qu'on avait parlé psychogénéalogie, Marie-Geneviève, je ne sais plus si c'était vous ou si c'était un autre intervenant qui nous racontait l'histoire de cette famille où il y avait un accident de voiture, toujours au même âge, etc. Et puis, à un moment donné, en cherchant dans l'histoire familiale, en 1700 ou quelque chose, il y a un ancêtre, alors que personne n'était au courant dans la famille, qui avait eu un accident de charrette. À cet âge-là, et cet accident se reproduisait de génération en génération. Ça, c'est aussi la psychogénéalogie. Ça permet d'expliquer des choses qui se répètent dans une famille.
Tout à fait. Ça, c'est le travail d'Anne-Anselin Schussenberger, qui est l'auteur de ce titre et de ce regard sur la famille, psychogénéalogie. Et elle a beaucoup identifié ces répétitions au niveau d'événements traumatiques, parce que ce sont ceux qui nous marquent davantage.
Bien sûr.
Qui nous amènent à nous interroger sur qu'est-ce qui se vit, qu'est-ce qui se rejoue. Et oui, dans les ateliers de psychogénéalogie, on va regarder la place de la personne dont on s'occupe et cette place, en la mettant au regard de toutes les autres personnes de la famille qui sont nées, par exemple, en deuxième position, Anne-Anselin Schussenberger le cite d'ailleurs dans sa propre histoire, eh bien, on va regarder quels sont les points communs ou quels sont, même au niveau des dates, une date de naissance peut nous ramener à quelqu'un d'autre. Donc il y a juste à regarder et à s'interroger et s'il y a des blocages, on pourra les travailler par ailleurs avec un outil thérapeutique comme les constellations familiales par exemple.
Qu'est-ce que c'est les constellations familiales ?
Alors les constellations familiales, c'est le travail de Bert Hellinger et c'est ce qui permet de mettre en place sa famille par l'intermédiaire des membres d'un groupe. Et là on a toute la mémoire émotionnelle, toute la mémoire inconsciente qui permet de restructurer, de réharmoniser le système familial.
Et alors, quand quelqu'un vient vous voir avec un problème, c'est vrai que la psychogénéalogie, ça paraît un peu, enfin pour moi, pour beaucoup de nos auditeurs aussi, j'imagine, quelque chose d'un peu abstrait, comme nous dit ce que, Sylvie d'ailleurs, comme ce que nous dit Sylvie. C'est vrai qu'on se demande comment, en remontant aussi loin dans notre histoire familiale, on peut réussir à trouver des explications. Comment ça marche tout ça, Marie-Geneviève ?
Alors, on n'est pas obligé de remonter très très loin et on prend étape par étape. Juste à côté de soi ou autour de soi et au-dessus de soi.
Oui.
Donc au niveau de nos propres frères et sœurs, est-ce que l'un d'eux a souffert, par exemple, au moment de la naissance, ou bien au niveau de nos parents, de leurs frères et sœurs? Voilà, on va faire graduellement en commençant par ce qui est le plus proche de l'enfant. Et puis, on regardera quelles sont les circonstances. Ce que l'on peut voir d'assez amusant parfois, parce que la psychogénéalogie, ça n'est pas que l'étude des traumatismes. Si on regarde une fratrie, on peut voir les écarts d'âge, ou on peut voir les répétitions. Bon, par exemple, une famille où il y a trois garçons, eh bien, effectivement, la grand-mère avait elle-même mis au monde trois garçons.
Mais ça va jusque-là, c'est-à-dire qu'il y a des répétitions même dans le sexe des enfants, le nombre d'enfants, etc. Alors le nombre d'enfants, on peut gérer, mais le sexe des enfants, on ne peut pas gérer.
Non, c'est pour ça qu'on parle de loyauté invisible. C'est que inconsciemment, nous sommes poussés à répéter, à reproduire, pour quelque part, je dirais, parfaire ou finir, consolider ou remettre en vue quelque chose qui peut être passé inaperçu.
Marie-Geneviève Thomas, vous restez avec nous. On continue à parler psychogénéalogie. On va parler de votre livre, L'héritage invisible chez Jouvence. Sylvie Pragère-Séchaud est toujours avec nous. On va continuer à parler des mémoires de naissance parues en novembre chez D'Angle. Et puis dans un instant, une saga familiale incroyable. Thierry Braillère sera avec nous pour nous en parler, l'auteur du Rabot de Louis aux éditions BOD. On dit BOD, Thierry ?
Ou BOD, comme on veut.
Ou BOD, et on sera également avec Pierre Papoz qui va nous parler de Filtre de vie, cette société qui permet aux personnes âgées de raconter leur vie, ou pas seulement âgées d'ailleurs, hein, n'importe qui, de raconter sa vie, et puis un auteur va en faire un livre, une super idée de cadeau d'ailleurs. On reste ensemble, dans un instant on va parler donc de nos phobies, de nos blocages, et de si tout venait de notre naissance, ou avant. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, c'est vous. Isabelle Bresse.
Phobie, blocage, et si tout venait de notre naissance ou de plus loin encore. On est toujours avec Marie-Geneviève Thomas, auteure de L'héritage invisible chez Jouvence, psychologue, psychothérapeute, animatrice d'ateliers de psychogénéalogie. Et oui, notre histoire familiale peut avoir un impact sur notre propre histoire et puis sur certains troubles qu'on peut développer. On est toujours avec Sylvie Pragère-Séchaud. Les mémoires de naissance parues en novembre chez D'Angle nous racontent comment notre naissance, mais de la conception jusqu'à la naissance, peut avoir un impact sur nos phobies, nos peurs, etc. J'imagine que quand vous entendez Marie-Geneviève parler de psychogénéalogie, ça résonne, Sylvie.
Ah oui, ça résonne complètement, puisque effectivement, nous, on part en EMDR, on part d'un déclencheur.
Qu'est-ce que c'est l'EMDR ?
Ah, l'EMDR, c'est une méthode thérapeutique axée sur le trauma et qui part du principe que nous pouvons retraiter l'information. C'est le traitement adaptatif de l'information.
Ouais, on a l'impression que vous parlez de mon Mac, là.
Et donc, d'accord, j'essaie de simplifier. Donc, lorsque nous avons une situation où nous rencontrons l'adversité, on va appeler ça trauma pour dire un gros mot, mais ouais. C'est l'adversité, c'est-à-dire ça peut vraiment être quelque chose tout simplement que nous vivons avec un sentiment de terreur. Nous avons trois réactions. Nous avons trois réactions possibles dans l'ordre que notre cerveau reptilien va nous imposer. Soit, premièrement, la fuite. Soit, deuxièmement, le combat. Mmh. Et si nous pouvons ni fuir d'abord, ni combattre ensuite, alors nous allons nous figer, c'est-à-dire que nous allons tomber presque comme nous évanouir, tomber en syncope, ne plus rien sentir, c'est ça le figement.
Il y a certains animaux pour éviter de se faire manger qui font ça, qui font le mort.
Nous faisons tout ça.
On fait tout ça.
Nous faisons tout ça de façon plus ou moins importante, plus ou moins large.
Mais c'est marrant ce que vous dites parce que moi je m'intéresse aussi beaucoup à la communication interpersonnelle et c'est la même chose quand on vous pose une question à laquelle vous n'avez pas envie de répondre, soit vous n'y répondez pas, donc c'est la fuite, soit vous parlez trop. Donc c'est la deuxième option. Soit vous faites le mort.
Voilà, exactement. Mais on fait ça pour tout en fait.
Oui.
Et donc à partir de là, dans cette situation, on a notre cerveau stocke tous les éléments de l'expérience. Et ça, ça va nous servir de déclencheur, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que aujourd'hui, lorsque nous allons rencontrer dans notre vie actuelle un élément qui ressemble à quelque chose de l'expérience initiale qui était l'adversité, alors nous allons risquer d'avoir ces comportements comme ça de sidération. Et c'est ça, c'est à partir de là qu'on compare.
Il faut réussir à comprendre ça et à le maîtriser en fait.
Non, non, il n'y a pas besoin de le comprendre, c'est-à-dire qu'ensuite ça se présente tout seul. C'est la magie du cerveau et du corps. Les mémoires sont là, à l'intérieur de notre corps, ça se présente. Si la personne est capable de s'associer, c'est-à-dire on la met dans une situation où on la tranquillise, elle va pouvoir mobiliser ses ressources. Et à ce moment-là, on lui dit, bon bah maintenant, toi tu as peur des ascenseurs, c'est impossible pour toi d'aller dans un ascenseur ou de prendre l'avion. Ok, tu imagines qu'ici, maintenant, là, tu es dans un ascenseur. Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Elle va commencer à dire, là j'ai des palpitations cardiaques. Et on continue comme ça, on tire le fil. Et à partir de là, on remonte jusque dans la naissance. C'est-à-dire que ça va basculer d'un seul coup. En fait, la personne s'y attend pas. Et au départ, moi je m'y attendais pas non plus.
Parce que vous l'avez pratiqué sur vous, ça aussi ?
Je l'ai pratiqué sur moi, mais surtout, comme je suis formée en EMDR, cette méthode qui aborde les psychotraumas. Alors, j'ai pu partir de déclencheur sur mes patients. Et en fait, à notre plus grande surprise, à moi et à eux, parce qu'ils me disaient, non, mais attendez, là, vous allez me prendre pour une folle. Là. Je suis dans le ventre de ma mère. Donc, je dis, non, c'est votre vécu. Donc, voilà. Et ça s'est répété pratiquement tout le temps, quoi.
Et alors, inconsciemment, on le sait, on est avec Thierry Braillère, qui est donc l'auteur du Rabot de Louis aux éditions BOD. Thierry, vous avez écrit une saga familiale, c'est une vraie saga, le Rabot de Louis. Inconsciemment, on a l'impression, quand on lit ce roman, que vous aviez des choses à exprimer sur votre propre famille.
Ah, complètement, oui, complètement, ça part de là, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je suis heureux de savoir que les 60 personnages n'ont pas fait appel au psychogénéalogiste, parce que mon histoire, ma saga serait devenue un tout petit roman de rien du tout, parce qu'il se serait soigné, effectivement.
Eh ben oui, alors racontez-nous pourquoi.
Parce qu'en fait, effectivement, j'ai le sentiment, et c'était, comme dirait Molière, je faisais de la psychogénéalogie sans le savoir, que chacun personnage vit avec les traumatismes du précédent. Mais alors, quand je dis le précédent, c'est pas forcément de parents à enfants, c'est même carrément arrière-grands-parents, puisque moi, c'est sur 9 générations. Et on a le sentiment que tous mes personnages de la même famille, les familles Rabot, et vraiment tous les personnages sont coincés dans leur propre histoire et n'en sortent pas. Hormis peut-être la quasi-dernière, Lisa, qui va mentir d'ailleurs à tout le monde pour pouvoir faire ce qu'elle veut enfin et se débarrasser de traumatisme. Et d'ailleurs, j'ai retenu le mot traumatisme tout à l'heure parce que j'ai l'impression qu'on hérite plus des traumatismes que des choses positives qui nous feraient avancer. On a l'impression qu'on prend des choses qui nous retiennent énormément.
Marie-Geneviève Thomas, est-ce que c'est vrai qu'on va garder plus le négatif que le positif de notre histoire familiale ? Ou est-ce que c'est ça qui se voit le plus ?
C'est en tout cas ce qui se voit le plus, oui. Et c'est ce qui pèse tellement que là, on ne peut plus faire, je dirais, l'économie de le regarder. Quand on est j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent avoir l'impression de porter un poids. Ou d'être bloqué et effectivement de vivre des émotions telles que celles que Sylvie traite à la naissance, les phobies, les angoisses et très souvent dans l'histoire on retrouve soit l'angoisse de l'immigration, soit la peur de la guerre, mais qui n'a pas été vécue par la personne elle-même, mais qui a été vécue.
Ou la peur de manquer, la peur du manque, de ne pas avoir à manger, de ne pas pouvoir subvenir
à
ses besoins.
Des pathologies comme l'obésité ou au contraire l'anorexie. Lorsqu'on n'arrive pas avec la psychologie classique et le travail de développement personnel ou d'approche comme le MDR, effectivement, à identifier la racine du blocage, ou tant que ce blocage persiste encore, en allant voir dans la psychogénéalogie, on va pouvoir dénouer ce qui s'est passé précédemment et qui dans notre inconscient, est inscrit en nous aussi. Quelque part, c'est comme si nous prenions une part de ce qui s'est passé pour une personne de notre famille, comme pour montrer à la fois ce que j'évoquais tout à l'heure, l'appartenance au clan, et en même temps, le soutien qu'on voudrait lui apporter. Donc on fait un petit peu comme elle, où on vient rappeler combien ça a été douloureux pour cette personne, en ayant les mêmes émotions ou les mêmes blocages, mais sans s'en rendre compte, évidemment, et c'est totalement inconscient. D'où la nécessité de se faire accompagner et de travailler sur... son génosociogramme. Le génosociogramme, c'est ce que nous construisons en atelier de psychogénéalogie ou en entretien ou en individuel, et c'est ce qui permet de vraiment mettre à plat sur un schéma tout ce qui s'est vécu dans la famille. On a toute la structure familiale, toutes les personnes, tous les membres de la famille, donc ça permet aussi de réintroduire ce que le Bertellinger a nommé des exclus, c'est-à-dire des personnes dont on n'a pas parlé, parce que souvent elles sont décédées prématurément ou dans des circonstances très violentes et que ça a été tellement douloureux qu'on n'en parle plus. Et il y a la nécessité, quelque part, de rendre honneur à ces destins difficiles, de les reprendre en compte et de réintégrer les personnes, ne fût-ce que sur le schéma. Symboliquement, ça agit déjà énormément dans la vie de la personne.
Et c'est fou, Thierry Breyer, ce que nous dit Marie-Geneviève Thomas, oui, parce que c'est exactement votre saga familiale.
Alors oui, ce qui est terrible au plus, c'est que mes personnages, alors c'est un roman, donc j'en fais ce que j'en veux, mais mes personnages effectivement craignent d'avancer parce que justement ils ont un passé parfois, certes anti-héros, donc un passé pas forcément lourd, mais qui les empêche de franchir, et comme je suis vicieux dans mon histoire, effectivement je leur donne raison, parce que chaque fois qu'ils avancent, il leur arrive un truc incroyable.
Qui fait dire au suivant,
n'avançons plus, ne bougeons plus.
Eh oui. Alors, Thierry Breyer, vous restez avec nous. On continue à parler du Rabot de Louis dans un instant aux éditions BOD. On reste évidemment avec Marie-Geneviève Thomas, auteure de L'héritage invisible chez Jouvence, mais également psychologue, psychothérapeute, animatrice d'ateliers de psychogénéalogie. Sylvie Pragère-Séchaud est toujours avec nous. Les Mémoires de naissance, c'est son livre paru chez Dangle. Et puis, vous aussi, vous êtes psychothérapeute, hein, Sylvie. Et on reste également avec Pierre Papose, qui a créer Filtre de vie, qui vous permet de raconter votre histoire à un auteur qui va ensuite en faire un livre. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, c'est vous, Isabelle Bresse.
Phobie, blocage, et si tout venait de notre naissance ou de plus loin encore, on est toujours avec Sylvie Pragère-Séchaud, auteure des Mémoires de naissance, paru chez Dangle. On est toujours avec Marie-Geneviève Thomas, L'héritage invisible, son livre paru chez Jouvence. Thierry Breyer, auteur du Rabot de Louis aux éditions BOD. Et évidemment, Pierre Papose, fondateur de Filtre de vie, qui va nous en parler dans un temps. Bah, tout de suite, tiens d'ailleurs. Pierre, c'est vrai que votre société, c'est quelque chose de tout à fait original, puisque vous allez voir des personnes, alors souvent ce sont des cadeaux que font les petits-enfants ou les enfants à leurs grands-parents pour garder une trace. C'est important cette trace, Pierre.
Oui, je pense qu'elle est importante pour les deux personnes. Les premières, ce sont celles qui témoignent, qui donnent un sens à leur vieillesse. J'ai une petite dame qui, après cette interview, m'a dit, elle avait 92 ans, elle m'a dit à la fin de son interview, elle me dit « Grâce à vous, je n'aurais pas vieilli pour rien ». Et effectivement, Filtre de vie, c'est une société qui a un concept qui permet d'interviewer nos aïeuls pour qu'ils retracent leur histoire et la transmettent à leur famille dans un espace vidéo dédié et sécurisé.
Mais c'est vrai, Pierre, que avant, les familles étaient beaucoup plus proches. Souvent, les grands-parents vivaient avec les enfants et les petits-enfants. Et puis, au coin du feu, il n'y avait pas la télévision. Qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on se racontait notre enfance, on se racontait nos vies, etc. Ça se perd, ça. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a quand même une demande, un besoin de connaître son histoire.
Ben oui, pour moi, ça fait partie des plus précieux héritages. Et pour moi, ces héritages, en plus... ils ont une valeur qui ne cesse de croître avec le temps. Et aujourd'hui, on a des moyens, aujourd'hui, avec la technologie du numérique, on a des moyens de sauvegarder dans un temps illimité ces témoignages de vie et les transmettre dans la lignée de notre famille.
Sylvie Pragère-Séchaud, est-ce que c'est important de pouvoir revenir sur son histoire, sur sa propre histoire? Et comment est-ce qu'on fait quand, par exemple, on est orphelin et qu'on ne connaît pas sa propre histoire?
Tout est en nous. On n'en finit pas de découvrir au niveau scientifique comment ça se transmet. Et aujourd'hui, on est capable, l'université d'Eugene a fait des études, il s'est repris par des universités américaines, deux universités américaines, on est capable de dire que la trace est génétique. C'est-à-dire que l'information se transmet dans l'ADN. Certainement, au-delà de l'ADN, peut-être qu'avec les progrès de la physique quantique, on saura dire encore plus loin. Mais en tout cas, on sait dire déjà au niveau de l'ADN qu'il y a un impact dans l'ADN de la façon dont, par exemple, on a fait des études évidemment sur les traumas, hein, puisque c'est ce qui apparaît le plus, comme on le disait tout à l'heure. Donc, sur des femmes qui ont été victimes de viol, on sait que elles-mêmes, lorsqu'elles sont victimes, leur ADN se transforme. Leur fille, en première génération, leur ADN se transforme encore plus.
Ah oui.
Deuxième génération, l'ADN se transmet encore plus. Et troisième génération, encore plus. On n'a pas étudié sur plus que trois générations. Mais donc, on sait, et avec les probabilités que les enfants soient, puisque la vie va nous représenter les événements, exactement comme disait tout à l'heure Marie-Geneviève, la vie va nous représenter les événements, la charrette, ou bon, voilà, telle date, tel événement, tel divorce, telle rupture, tel enfant qui meurt à la naissance, etc., ou qui meurt nourrisson. La vie nous les représente, et évidemment, mais même les événements heureux.
Il y a aussi un impact quand on a des jumeaux et qu'un des deux enfants meurt dans le ventre de la maman, même s'il est perdu très tôt, hein, même s'il est perdu quasi à la conception, il y a un impact.
Oui. On pense aujourd'hui, selon les études, que 80% des grossesses démarrent gémellaires. 80% des grossesses démarrent gémellaires.
Oh, et que, c'est un truc de fou, ça.
Ouais, et que les études sont un peu controversées. Donc, pour le moment, ce n'est pas encore une base très, très scientifique. Mais certains scientifiques disent ça. Et donc, voilà. Donc, effectivement, ça, c'est extrêmement difficile pour la personne qui reste. Même si la mère ne savait même pas qu'il y avait eu un jumeau. Ça crée une détresse au moment de la séparation absolument indicible, et on va avoir soit des phénomènes d'agrippement dans notre vie, on sera toujours à vouloir absolument absolument coller à quelqu'un d'autre, soit des phénomènes de moi jamais je serai avec quelqu'un parce que c'est trop dur quand il meurt.
Marie-Geneviève Thomas, c'est important ce travail que fait Pierre Papoz avec Filtre de Vie, d'aller chercher l'histoire des grands-parents et de la retranscrire pour la psychogénéalogie, parce qu'en plus les grands-parents peuvent nous éclairer. Nous, on va connaître l'histoire de nos parents, l'histoire de nos grands-parents, peut-être un peu l'histoire de nos arrière-grands-parents, mais ça s'arrête à peu près là. Alors que nos grands-parents, bah, eux, pareil, ils vont se rappeler très bien l'histoire de leurs parents, l'histoire de leurs grands-parents, et un peu l'histoire... Donc on arrive à remonter beaucoup plus loin dans notre histoire personnelle, et ça, j'imagine que c'est très important pour la psychogénéalogie.
Alors, pour la psychogénéalogie classique, je dirais oui, c'est extrêmement important parce que ça donne des détails, ça permet d'entendre justement au niveau émotionnel comment les événements ont été vécus. Autrement, on n'a que des informations brutes qui peuvent être l'arrière-grand-père est mort à la guerre, mais voilà, on n'a pas plus d'informations. On projette ou on imagine du coup le vécu. Par contre, il y a des familles où il n'y a pas cette transmission. Même au coin du feu, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, lorsqu'il y a des silences, lorsqu'il y a des quelque chose qui ne se dit pas, c'est que souvent il y a des secrets et donc des événements extrêmement douloureux qui ont été vécus, comme le viol. Et je suis tout à fait touchée d'entendre parler de tout cet impact au niveau de la trace génétique, parce que ça fait des années que j'en ai entendu parler déjà. Et c'est ce que nous vérifions dans cette approche des constellations familiales, c'est que cette mémoire, que nous sachions ou pas, toutes les informations sont avec nous, sont en nous. Et elles peuvent se révéler et se mettre au grand jour très rapidement dans un travail de groupe. L'évocation de la physique quantique correspond tout à fait à ça. Et ça nous permet de voyager dans le temps, d'une mémoire à l'autre, de nos mémoires à celles de nos ancêtres, et de façon à pouvoir redégager quelque part la trajectoire, le chemin. Alors oui, on peut le faire en conscience avec les connaissances que l'on a, mais on peut aussi le faire avec l'inconscient et ce que nous portons. Et notre cerveau est extraordinaire.
Bien sûr. Pierre Papoz, est-ce que quand vous allez recueillir le témoignage de personnes âgées comme ça qui vous racontent leur histoire, est-ce que il arrive que les enfants, les petits-enfants tombent des nues en apprenant des choses qu'ils ne savaient pas ?
J'ai du mal à vous répondre parce que la plupart du temps, toutes les personnes qui me font ces témoignages, donc qui sont retranscrits sur un DVD, sur une clé USB ou sur un site d'hébergement, ne désirent pas faire connaître ce témoignage avant leur mort. Et bien souvent, elles proposent à leur notaire de ne donner cet accès que 5 ans après leur décès.
Mais pourquoi ? Vous savez pourquoi ils veulent pas ? Sylvie, vous avez quelque chose. Sylvie, elle voudrait réagir.
Oui, oui, j'ai envie de dire, c'est super qu'ils fassent cette démarche parce que du coup, ils vont pouvoir révéler les secrets.
Eh oui. Mais alors, c'est pour ça, vous pensez, Pierre, qu'ils veulent pas que ce soit dévoilé avant leur mort et avant 5 ans après leur mort ?
Je ne suis pas sûr parce que je peux vous dire que on n'essaye pas à Filtre de Vie d'avoir des questions intrusives. On n'essaye pas de récupérer des vieux secrets de famille. La démarche n'est pas du tout dans ce cadre-là, même si je viens de découvrir le cadre thérapeutique que peut effectivement engager ce type de témoignage. Moi, aujourd'hui, la démarche, elle est faite pour que les anciens puissent donner quelques images de leur vie à travers une vidéo et puissent les transmettre. Mais si elles ne donnent pas, si elles ne veulent pas spécialement la transmettre à leurs enfants tout de suite, c'est, je pense, parce qu'aujourd'hui, elles ont déjà l'occasion de les transmettre. Donc c'est simplement une histoire qu'elles veulent conserver et une image qu'elles veulent donner à leurs enfants, à leurs petits-enfants, après leur disparition.
D'accord. Alors, c'est vrai que ça, c'est un outil très utile. Thierry Braillère, quand vous écrivez votre saga familiale, qu'est-ce qui vous porte ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire dans cette saga familiale ?
Bah, parfois aussi, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est un peu aussi pas de régler ses comptes, mais effectivement, de parler de soi, c'est toujours très intéressant par l'intermédiaire de personnages, et notamment les comptes qu'on a réglés avec, pas sa famille, j'en suis pas là, mais de comptes à régler avec sa propre histoire, et peut-être de chercher là d'où on vient. En l'occurrence, dans mon dernier personnage, lui, va retrouver son premier l'ascendant tout en haut, et même si c'est quelqu'un qui n'est pas connu, il en est très très fier. Et d'ailleurs, dans le rabot de Louis, vous avez une dédicace du prince Joachim Murat, qui lui est le 9e descendant du maréchal Murat, donc qui était le beau-frère de Napoléon. Et on a trouvé cette similitude en disant, bah écoutez, toi tu sais qui tu as comme ancêtre, mon rabot en fait, Lisa, on ne sait pas trop. Mais c'est important de pas forcément penser qu'il est connu, mais qu'il est connu au moins par soi. Et mes personnages, c'était ça, c'est de remonter toujours. Et dans mon histoire, c'était et à la fois de remonter et de descendre et d'inventer ces vies tout à fait, je dirais, banales et donc exceptionnelles. Comme disait M. Papose, là, concernant Filtre de Vie, c'est exactement ça. C'est la banalité devient incroyable à un moment donné en disant, mais c'est vrai que c'était... On cherche pas des scoops, mais on cherche la vérité et on apprend beaucoup de choses. Donc je me suis amusé à ça, moi, à apprendre pour moi, peut-être aussi.
C'est ça. Et c'est vrai, Pierre Papose, qu'on a tous une histoire, on a tous une vie finalement passionnante.
On est tous des êtres uniques, on a tous une histoire unique.
Et oui, et même quand on pense qu'une personne a une petite vie pépère, etc., j'imagine, quand on travaille pour Filtre de Vie et qu'on va écouter ces histoires, qu'on découvre qu'en réalité, les uns et les autres, tout le monde a eu des aventures, des histoires, a vibré, a connu l'amour, a connu la déception, a connu la tristesse, etc., etc.
Ah oui, et puis c'est une image extraordinaire que de voir raconter par nos grands-mères, nos grands-pères, leur vie à l'époque. Et je trouve que c'est, quand je parle d'héritage, c'est un véritable héritage que de conserver non seulement l'image, mais la voix, la façon de s'exprimer, la vraie personnalité de ces gens qui, dans quelques décennies, vont disparaître.
C'est vrai, moi j'ai le souvenir de ma grand-mère qui me racontait, elle avait grandi dans un orphelinat à Marseille, qu'on leur coupait jamais les cheveux. La première chose qu'elle a faite à 21 ans en sortant de l'orphelinat, c'est d'aller se faire couper les cheveux pour les vendre, pour en faire des perruques. Et se faire, c'était dans les années 20-30 qu'elle est sortie de l'orphelinat, se faire la coupe mistinguette, voilà. Et elle a tout vendu, ses cheveux, qui se lavaient qu'une fois par an, et que leur seule sortie, c'était les enterrements. Elles allaient à l'enterrement jouer les pleureuses et en fait c'est là où elles avaient les plus grands fous rires de leur vie parce que malheureusement c'était pas très drôle l'orphelinat. Alors elle racontait. Alors moi mon grand plaisir c'était de dire à ma grand-mère raconte-moi comment c'était à l'époque et elle me racontait sa mère qui est morte de la tuberculose à 33 ans, son frère qui est mort à 18 ans de la tuberculose également, son père qui a été enterré par un obus et déterré par un autre obus en 14-18 et je trouve que nous dans notre imaginaire d'enfant, eh ben ça nous construit aussi cette histoire, Sylvie, non ?
Oui, oui, c'est sûr, ça nous construit. Ça nous construit. Tant que ça circule, c'est du vivant. Mmh. Et c'est ça qui est important, c'est de mettre de la circulation, du vivant et de la transmission. Je trouve ça magnifique, tout ce qu'on est en train de dire ce matin. Moi, ça me réjouit.
C'est vrai que nos histoires sont magnifiques et l'histoire de nos familles est magnifique. Et si les grands-parents... Moi, il n'y a rien qui me rend plus triste que ces mères, ces grands-mères qui ne racontent pas à leurs enfants. Parce que du coup, on se coupe un bras, quoi. Je trouve qu'on passe à côté de son histoire, à côté de sa vie. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci Pierre Papoz d'avoir été avec nous. Filtre de vie, c'est votre société. Si vous voulez recueillir le témoignage de vos proches, si vous voulez les filmer, les garder en vidéo, garder votre histoire familiale, eh bien Filtre de vie est là pour ça. On va mettre le lien évidemment sur le Facebook Sud Radio, c'est vous l'émission. Merci Sylvie Pragère-Séchaud d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Je rappelle votre livre, Les Mémoires de naissance, chez D'Angle. Un livre superbe où on apprend vraiment comment, depuis notre conception jusqu'à la naissance, on se construit et on peut éventuellement développer des blocages, des phobies, des sentiments de manque, de peur, etc. Et puis merci à Marie-Geneviève Thomas. L'héritage invisible, c'est votre livre chez Jouvence. Si vous voulez savoir ce qu'est la psychogénéalogie, comment votre histoire familiale joue sur votre propre histoire et sur vos peurs également, sur tout ce qui peut vous empêcher d'avancer, eh bien l'héritage invisible est là pour ça. Et puis Thierry Braillère, merci mille fois. Une superbe saga familiale, Le Rabot de Louis aux éditions BOD, où là, bah, depuis 1768 jusqu'à nos jours, on suit l'histoire sur 9 générations de cette famille et c'est absolument passionnant. Merci à vous tous et je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain sur Sud Radio.